RFI, 4h30 à Paris, 1h de moins en temps universel, il est 6h30 à Antananarivo.
Afrique Matin sur RFI, Nemo en Peace.
Le début de ce journal à Madagascar où, après des élections locales possiblement entachées de fraude, les résultats officiels sont attendus dans un climat de défiance. Ils ne seront pas dévoilés avant une dizaine de jours, mais déjà, certains revendiquent leur victoire. Apaisement des tensions entre l'Éthiopie et la Somalie. Les deux pays ont signé un accord diplomatique sous l'impulsion de la Turquie. Une entente, oui, mais de très nombreuses interrogations persistent. La réponse du gouvernement congolais à Amnesty International, son porte-parole Patrick Muyaya rappelle que la RDC a déjà engagé une procédure judiciaire après les massacres perpétrés à Goma le 30 août 2023 et pour lesquels l'ONG pointe du doigt le rôle de plusieurs officiers de l'armée. Et puis une attente de plus d'un demi-siècle en Guinée. Lundi, Serou Guirassy pourrait succéder au Nigérian Victor Osimhen en tant que ballon d'or africain et c'est tout un pays qui vibre derrière l'attaquant du Borussia Dortmund. Nous sommes à Conakry en fin d'édition. On ne connaîtra pas les résultats officiels avant le 24 décembre prochain. Et pourtant, à Madagascar, deux jours après les élections locales, ils sont nombreux, ces candidats, à revendiquer leur victoire, le plus souvent sur les réseaux sociaux, ensuite relayés par les médias partisans qui célèbrent déjà leur champion. Seulement, seule la CENI, la commission électorale, est compétente pour publier les résultats officiels. Ils sont donc attendus dans un climat de défiance après un vote entaché de suspicion de fraude sur la grande île. RFI, Antananarive, Pauline Le Troquier.
La confusion s'est emparée de plusieurs centres de vote de la capitale ce mercredi. Dans le quartier d'Anousbé, des individus sont interpellés, munis de bulletins précochés en faveur de la candidate de la coalition présidentielle IRMAR, Arlal Ramanantsou. Au même moment, à Ondavaman, Béana Lamaït, la tension monte soudainement avec l'arrestation d'au moins 7 hommes prêts à voter en possession de cartes électorales irrégulières que RFI a pu consulter. Eux sont soupçonnés par des délégués de vote d'avoir été missionnés pour gonfler les voix obtenues par la candidate du pouvoir. En dehors de la capitale, à Amparafavoul, au nord-est du pays, des suspicions de bourrage d'urnes ont également agité la journée. Des incidents confirmés à RFI par la CENI, la Commission électorale nationale indépendante. Swav Anjana Routfik, son rapporteur général, défend toutefois des cas isolés.
Oui, la journée de vote s'est déroulée dans le calme en général. On peut dire aussi qu'il y a des exceptions dans quelques lieux, dans quelques régions. Mais nous pensons que tout ça sont des cas isolés, déjà maîtrisés par les autorités ou les responsables sur place. Nous pensons que le vote est conforme.
À Antananarive, Arlal Ramanantsou, la candidate du pouvoir, comme son adversaire du team, Toudra Ravalmanan, revendique tous deux la victoire sur les réseaux sociaux. Sollicité Safid, la plus grande mission d'observation électorale de l'île, invite à attendre les résultats officiels, au risque, dit-elle, d'alimenter encore un climat de défiance post-électorale. Pauline Troquier, Antananarive, RFI.
Lui a bel et bien été proclamé vainqueur. Davy Ramandimbisou, lauréat du Grand Prix Hip Hop Plus 2024, pour son film intitulé « Sous le gravier, les larmes ». Le réalisateur malgache y rapporte le témoignage émouvant d'une femme de son pays qui lutte pour la survie de sa famille, confrontée à la sécheresse. Un fléau à cause duquel elle a dû abandonner la riziculture pour aller casser des cailloux dans une carrière de gravier. Récit Elodie Papin.
Je m'appelle Fenovola. Toute cette poussière de pierre s'est installée dans ma poitrine.
Fenovola Nomenjazakwai raconte, face caméra, le manque d'argent, la pollution des explosifs qui dynamitent les rochers, les maladies et l'inquiétude pour l'avenir.
Cette carrière, c'est notre pain quotidien, mais elle ne suffit pas pour subvenir à tous nos besoins. L'énergie nous manque, le corps fatigue. Même si c'est difficile, nous devons continuer, car nous n'avons pas le choix.
Avant, elle cultivait du riz pour nourrir ses trois fils et ses quatre petits-enfants.
À cette époque, les récoltes étaient abondantes, grâce aux pluies régulières et au sol fertile. Mais aujourd'hui, tout a changé.
Son histoire a ému le jury du Grand Prix Hip Hop Plus. Max Ball, chef du service RFI Planète Radio.
Ce film, il résume en 3 minutes la dureté de la vie à Madagascar face au réchauffement climatique et aux conséquences directes sur la qualité de vie. Bah, c'est un peu l'ADN d'hip-hop, c'est-à-dire la captation d'un témoignage et d'un ressenti pour essayer justement de nourrir la réflexion autrement qu'avec des chiffres.
Davy Ramandimbisoa remporte avec ce prix une bourse de production de 3000 euros et un accompagnement pour l'écriture, la réalisation et la promotion d'un court-métrage.
C'est un accord considéré comme historique par beaucoup. La Turquie a annoncé avoir facilité une entente diplomatique entre l'Éthiopie et la Somalie. Signature saluée par Moussa Faki Mahamat, président de la Commission de l'Union africaine, par le secrétaire exécutif de l'IGAD, Workne Gebeyehu également. Un accord moins d'un an après celui signé par Addis Abeba avec le Somaliland, qui lui assurait un accès à une bande littorale de 20 km pour une durée de 50 ans. Mogadiscio, qui n'a jamais reconnu l'indépendance de son ancienne province, n'avait alors pas donné son assentiment. La crise semble donc derrière avec ce consensus. Mais de nombreux points restent à préciser, comme nous l'explique la chercheuse Elisa Dominguez dos Santos.
La déclaration est assez évasive. Ce qu'on constate, c'est qu'il spécifie que les deux pays réaffirment le respect de la souveraineté de chacun. Donc c'est une déclaration qui laisse quand même peu de place à une éventuelle reconnaissance du Somaliland par l'Éthiopie, comme cela a été prévu dans le protocole d'accord signé le 1er janvier entre l'Éthiopie et le Somaliland. Point vraiment de discorde, ligne rouge pour la Somalie. Donc maintenant, il y a des négociations qui sont présentées comme techniques, qui vont être lancées en février. Il reste donc à suivre la négociation de ces accords bilatéraux, puis ensuite leur mise en place. Il convient de garder un point de surveillance en ce qui concerne l'attitude de l'Égypte, qui avait déclaré l'envoi de troupes sur le terrain en Somalie dans le cadre du renouvellement de la mission de l'Union africaine de maintien de la paix en Somalie en janvier prochain. Cette déclaration de l'Égypte, cet été, laissait craindre une forme d'instrumentalisation de la mission de maintien de la paix de l'Union africaine, de laquelle, qui plus est, les troupes éthiopiennes avaient été rejetées par la Somalie lors d'une déclaration cet été également.
Elisa Dominguez dos Santos, interrogée par Lisa Fabian. Direction l'Ouganda dans ce journal, l'un des pays du continent où Total Energy a investi dans plusieurs projets pétroliers, notamment le forage de Tilenga, des initiatives pointées du doigt par les défenseurs des droits humains. Plusieurs organisations, dont la FIDH, soutenue par Oxfam, dans un rapport publié hier, accusent le groupe français de graves atteintes, parmi elles dégradation de l'environnement, expulsion forcée ou encore violence sexuelle. Je vous propose d'écouter Sacha Feyerabend, chercheur senior à la FIDH, en charge des questions liées aux entreprises et aux droits humains.
Ces deux dernières années, on a eu une accélération des transformations et accélération notamment de la construction dans ces sites pétroliers, qui a aussi amené une nouvelle vague d'impact, une nouvelle vague d'atteinte aux droits humains. Elles sont de plusieurs ordres. D'abord, évidemment, les questions de droits fonciers, etc., sont largement encore d'actualité, malheureusement. Mais on a aussi des premiers impacts environnementaux qui sont ressentis. On a des atteintes aux droits des travailleurs aussi sur les sites de construction. On a aussi une situation de violation particulière aussi des droits des femmes qui sont confrontées à des problématiques spécifiques dans les communautés. Et le tout aussi dans un contexte d'intensification de la répression à l'encontre des défenseurs des droits humains, des défenseurs du climat et de l'environnement qui essayent de se faire entendre dans le cadre de ce projet-là. Et d'une fermeture aussi particulière et de plus en plus prononcée de l'espace civique.
Sacha Feyerabend avec Pierre Firsion. Mercredi, Amnesty International a publié un rapport dans lequel elle accusait des hauts responsables de l'armée congolaise de possibles crimes contre l'humanité. Après un peu plus d'un an d'enquête sur les crimes perpétrés à Goma le 30 août 2023, jour où les FARDC avaient ouvert le feu sur un groupe de manifestants qui réclamaient le départ du territoire de la MONUSCO, la mission onusienne de maintien de la paix. À l'époque, l'armée congolaise avait fait part de bévues quand l'ONG de défense des droits humains assurait que les soldats s'étaient livrés à une folie meurtrière. L'ONG, dans ce rapport, appelle la justice à ouvrir une enquête sur la responsabilité de certains officiers, dont l'ancien gouverneur Constant Ndima. Et hier, Patrick Muyaya, porte-parole du gouvernement, lors d'une conférence de presse, a rappelé que la RDC avait déjà engagé une procédure judiciaire suite à ces événements. Écoutez-le.
Nous, on n'a pas attendu Amnesty International qui vient une année après la commission des faits. Il y a eu un procès en flagrance. Il y a eu deux membres du gouvernement qui ont été dépêchés sur place et qui ont donné des réponses sur base des pièces qui leur ont été communiquées. Mais il aurait été souhaitable pour Amnesty International, à travers ses experts, que si eux disposent des preuves impliquant, par exemple, ou démontrant la responsabilité du général Ndima, ils peuvent le transmettre. Parce que nous considérons comme gouvernement que sur cette question, il y a une réponse qui a été donnée de manière flagrante. Les responsabilités ont été établies, des condamnations ont été faites, il y a un procès en appel qui est attendu. Je pense que nous devons nous en tenir à ça. Parfois, il ne faudrait pas donner l'impression que nous-mêmes, on ne sait pas rendre justice lorsqu'il y a des problèmes. Et lorsque nous, on a rendu justice, on doit venir nous dire que la justice n'a pas été bien rendue parce que pour certains, pour eux, il fallait absolument que tel ou tel autre puisse être arrêté.
Patrick Mouyaïa, porte-parole du gouvernement congolais, avec Pauline Azidi. Et puis c'est l'actualité internationale de cette fin d'année, la chute du régime de Bachar al-Assad en Syrie. Des milliers de personnes exilées retrouvent donc l'espoir de pouvoir rentrer au pays et de retrouver leur famille. C'est le cas au Sénégal, où vivent, selon les chiffres officiels, quelques 30 000 Libano-Syriens. À Dakar, Léalisa Vesterov a rencontré l'un d'entre eux. Il s'appelle Akram El Amouri et avait profité d'un contrat de travail au Sénégal en 2012 pour s'y exiler. Reportage.
Les traits tirés, fumant cigarette sur cigarette, Akram est un Syrien toujours bouleversé par la fuite inespérée de Bachar al-Assad.
Believe me, 3 days, I don't sleep.
Je t'assure, ça fait 3 jours que je ne dors plus. Par moments, je pleure quand je vois l'état des gens qui sortent de la prison. Par moments, je suis fou de joie quand je vois des gens qui retrouvent des membres de leur famille ou des amis qui rentrent au village.
Arrivé au Sénégal en 2012 pour travailler, Akram, 44 ans, n'est plus jamais reparti. Derrière lui, il a laissé une mère et 2 filles en Syrie, mais surtout son père et l'un de ses frères arrêtés en 2013 près de Damas. Et depuis la chute du régime, ils ne sont toujours pas réapparus.
J'essaye de les retrouver. J'ai contacté tous mes amis. J'ai regardé toutes les photos de la prison de Kaysar, les unes après les autres. Mais à ce jour, aucune nouvelle. Je pense qu'il est mort, ou du moins j'espère qu'il est mort quand il a été arrêté. Je ne peux pas imaginer autre chose.
L'objectif désormais, c'est de réunir sa famille au Sénégal ou en Syrie. La question n'est pas encore tranchée. Les tirs d'Israël ont tout bouleversé à nouveau.
Ma fille m'a appelé hier et m'a dit qu'ils ont tiré juste à côté de la maison. Elle m'a dit « Viens voir papa, si je le pouvais ». Je rentrerai immédiatement.
Mais pour le moment, comme la Syrie a plongé dans l'inconnu, Akram est une nouvelle fois obligé d'attendre avant de pouvoir rentrer dans son pays. Léalisa Vesterov, Dakar, RFI.
La fin de ce journal est le sport, les yeux des passionnés de football africain qui se tournent vers le Maroc pour la CAN 2025, certes pour la Coupe du Monde 2030 également. Mais avant cela, on y remet le prochain Ballon d'Or africain. Ce sera lundi à Marrakech. À domicile, le Parisien Achraf Hakimi espère le décrocher. Mais fera face à 4 autres prétendants. Simon Adingra, l'ivoirien, le gardien sud-africain Ronwen Williams et Ademola Lookman, le Nigérian, grand favori, avec le Guinéen Serro Guirassy. Un petit vent de nostalgie souffle donc en ce moment sur le football en Guinée. Cela fait en effet 52 ans qu'un Guinéen n'a pas été sacré meilleur footballeur africain. À quelques jours de la cérémonie des CAF Awards, l'espoir de voir l'attaquant du Sili triompher est grandissant, même si la menace Lookman est omniprésente. Tiernoya Diallo à Conakry.
Depuis 1972 et le sacre de Cheikh Souleymane, aucun autre footballeur guinéen n'avait réussi à aussi bien se positionner pour le titre de meilleur joueur africain de l'année. Et Serro Guirassy pourrait bien être l'héritier de la star du Afia des années 70. En tout cas, dans la presse sportive locale, la confiance est de mise. Paul Fatia Tunkara, journaliste à Adafo Media.
Il a sorti Stuttgart de la profondeur du championnat pour le propulser sur la scène européenne, en Ligue des Champions pour être beaucoup plus précis. Ses statistiques sont affolantes.
Mais la concurrence est féroce, avec notamment l'attaquant nigérien de l'Atalanta Bergame, Ademola Lookman, décisif en Europe. Le Super Eagle a également fait parler de lui à la dernière CAN et pourrait bien faire ombrage à l'attaquant du Sili National. Ibrahima Massiba et Yagouba Diallo sont respectivement journalistes à Kabak TV et FIM FM.
Lookman, les stats de l'ouverture du championnat jusque-là, quand même il est devant.
Et surtout cette finale de l'Europa League, donc où il a crucifié à lui seul le Bayer Leverkusen.
Avec 6 buts inscrits lors des éliminatoires de la CAN, Serro Guirassy, malgré lui, n'a pas réussi à faire qualifier la Guinée pour Maroc 2025. Mais nul doute que sa cote de popularité est montée en flèche. Tiernoya Diallo, Conakry, RFI.
À Conakry, il est 3h44.
Afrique Matin sur RFI.
La suite, le programme, un nouveau marché dans le monde de l'art, celui des œuvres digitales sécurisées par des NFT, bien présentes lors de la dernière biennale de Dakar. Comment le cours du pétrole résiste-t-il aux différentes crises? Baisse de la demande chinoise, augmentation de la production des pays hors OPEP+. Marie-Pierre Olfond nous détaille tout ça dans la chronique des matières premières. Et puis un cyclone qui se rapproche dangereusement du nord de Madagascar. On en parle dans le journal des Outre-mer. Vous avez le programme jusqu'à 5h TU. Tout de suite, le reportage Afrique du jour. C'est l'un des pays considérés comme un site archéologique à ciel ouvert. 3000 ans d'histoire, de nombreux trésors et autres artefacts antiques découverts lors de fouilles au XXe siècle. De quoi alimenter mythes et légendes urbaines sur d'autres pépites présentes sur le territoire tunisien. Mais aujourd'hui, archéologues ou encore écrivains tentent de lutter contre ces infox qui créent parfois une frénésie dans la recherche illégale de trésors. Reportage à Tunis de Lilia Blaise.
Mesdames et messieurs, heureux de vous retrouver pour une nouvelle chasse au trésor. Nous allons traverser, regardez, la Méditerranée et nous rendre en Tunisie.
Nous sommes en 1983. La Tunisie est la star de l'émission française de Jacques Antoine, La chasse au trésor. 40 ans plus tard, pour certains Tunisiens, chasser les trésors n'est pas un jeu, mais une addiction. Les autorités saisissent chaque année plusieurs centaines de pièces archéologiques, artefacts, céramiques, tessons, résultats de fouilles illégales aux grandes dames des archéologues, comme Aïcha Ben Abed.
C'est pas spécifique à la Tunisie, c'est un peu partout. Hein. Même en France, hein, les gens dans leur petit village, ils sont en train de faire des trous pour essayer de trouver des trésors. Bon, que c'est pas vrai. Enfin bon, on trouve pas des trésors comme ça. Premièrement, c'est vraiment exceptionnel. C'est dans des contextes très précis.
La trouvaille de trois grands trésors spectaculaires, faits d'or et de statues antiques, a rythmé le XXe siècle.
Les pièces de bronze, statues et mobilier, protégées par une gangue de concrétion, ont mieux résisté aux outrages du temps et de la mer.
Le trésor marin antique de Mehdia, découvert en 1909 par des pêcheurs d'éponges, puis celui de Rouga, datant de l'époque byzantine et fouillé en 1972. Et enfin le trésor romain de Chemtou, exhumé en 1993.
Mais finalement, pour un archéologue, c'est bien de faire une telle trouvaille, mais surtout de préciser, de savoir d'où ça vient, quelle est la chronologie, pourquoi c'est là. C'est ça, en fait, le questionnement historique et l'importance d'une telle trouvaille.
Dans son livre « 5 histoires de trésors », l'écrivain Samir Marzouki s'est inspiré non pas des faits divers de chercheurs d'or illégaux,
le trésor de la Palmeraie,
mais plutôt des histoires de son enfance.
Dans les récits de nos grands-mères, il y a presque toujours des trésors. Il y a toujours des trésors cachés, etc. Et je pense que cela travaille pas mal l'imaginaire des gens, et certains y croient, quoi.
Dans ces récits, Samir Marzouki rappelle que le plus important dans la recherche du trésor reste l'apprentissage autour de la quête. La persévérance, le travail d'équipe, au-delà de l'appât du butin.
Donc pourrait se trouver là. La rose et sable, je ne vois rien.
Des atouts que mettait aussi en valeur l'émission de Jacques Antoine, le trésor tunisien de cette édition était à l'époque une rose des sables. Lilia Blaise, Tunis, RFI.
Reportage à retrouver sur notre application RFI Pure Radio.
RFI, toute l'actualité, Nemo en piste.
Les principaux titres de ce vendredi 13 décembre 2024. Le monde continue de se chercher une voie diplomatique vis-à-vis de la nouvelle situation en Syrie. Le secrétaire d'État américain est arrivé hier en Turquie. Anthony Blinken s'est entretenu pendant plus d'une heure avec le président turc Recep Tayyip Erdogan. En insistant pour que les civils syriens soient protégés, tous les acteurs doivent respecter les droits des groupes minoritaires, estime notamment le chef de la diplomatie américaine. Alors qu'Ankara souligne ses préoccupations sécuritaires vis-à-vis des forces kurdes qu'elle considère comme terroristes. La défense civile de la bande de Gaza, elle, évoque 58 morts hier dans une nouvelle série de frappes israéliennes. Les premiers bombardements sont tombés quelques heures après que l'Assemblée générale de l'ONU appelait à un cessez-le-feu immédiat et inconditionnel dans l'enclave palestinienne. Un appel symbolique est rejeté dans la foulée par Israël et par son allié américain. Et puis en France, la nomination d'un Premier ministre désormais annoncée pour ce matin. Le président Emmanuel Macron promet un chef de gouvernement, je cite, pour la matinée, repoussant le délai de 48 heures qu'il avait lui-même annoncé mardi. C'est une forme d'art qui séduit de plus en plus d'artistes et de collectionneurs sur le continent africain. Les œuvres digitales, un pavillon leur a même été dédié lors de la dernière biennale de Dakar, clôturée le 7 décembre. Et rendez-vous incontournable de l'art contemporain en Afrique. Des œuvres sécurisées par un NFT à l'heure de l'art 2.0. Le dossier Afrique Éco depuis Dakar avec notre correspondante Juliette Dubois.
Lorsque Linda Dounia, une jeune artiste sénégalaise qui crée surtout des œuvres digitales, a commencé à vouloir se faire connaître, elle s'est heurtée à un manque d'opportunités.
Il n'y a pas vraiment un grand marché pour ce médium-là en Afrique. Et quand j'ai décidé de commencer une pratique dans l'art numérique, je me suis rendu compte en fait qu'il n'y avait pas beaucoup d'espace qui pourrait comprendre ce que je fais et qui pourrait le médiatiser.
Elle regarde alors quelles sont ses options pour se faire connaître à l'international.
C'était soit d'émigrer quelque part, je ne voulais vraiment pas faire ça. Et donc, j'ai entendu parler des NFT, je me suis penchée dessus, j'avais un ami déjà qui le faisait, on en a parlé, puis j'ai décidé de m'y lancer.
Linda Dounia se tourne donc vers les NFT, c'est-à-dire des certificats de vente numérique qui garantissent l'authenticité et la traçabilité de l'œuvre. Cette ouverture sur le monde lui permet de conclure des partenariats avec des grandes galeries comme Christie's ou des clients comme l'entreprise américaine IBM. Elle est l'une des 11 artistes qui ont été exposées dans le pavillon NFT à la Biennale de Dakar. À ses côtés, d'autres artistes digitaux, mais aussi des peintres ou des photographes. Anna Alix Kofi est la commissaire du pavillon.
J'ai voulu donc prendre cet éventail d'artistes et de disciplines pour montrer que les NFT sont applicables absolument à tout. Le NFT, qu'est-ce que c'est ? C'est le contrat que vous donnez. Donc une œuvre est NFT du moment qu'elle est mintée, donc on lui a accolé un certificat électronique. Tout ce qui est physique peut être aussi NFT.
Avec ce pavillon, la commissaire veut promouvoir ce mode de vente auprès des artistes africains qui se heurtent parfois à des difficultés pour voyager.
Avoir son visa, par exemple, pour se rendre à une biennale, à une foire ou à son exposition, on peut penser que c'est élémentaire. Non, ça ne l'est pas. Beaucoup sont bloqués, restent là. Les œuvres sont beaucoup plus mobiles que les artistes.
Anna Alix Kofi voit donc les NFT comme un visa pour l'autonomie des artistes. Côté collectionneur, certains sur le continent s'intéressent aux NFT depuis plusieurs années. C'est le cas de Kenza Zouari, galeriste et collectionneuse tunisienne. Le développement des NFT lui permet de trouver des œuvres d'artistes émergents à des prix raisonnables.
Pour des petits collectionneurs ou des gens qui commencent ou des jeunes même qui s'intéressent à l'art, je trouve que c'est superbe. Mais surtout pour un collectionneur, ce qui est super intéressant, c'est le challenge derrière « Ok, j'achète cette œuvre, maintenant comment est-ce que je la montre ? Comment est-ce que je l'expose ? Est-ce que j'investis dans un écran ? Est-ce que j'investis dans un projecteur ? Est-ce que je les imprime ?»
Les artistes peuvent vendre leurs œuvres en direct sur des plateformes en ligne, mais des intermédiaires restent souvent nécessaires pour faire un travail de pédagogie. Juliette Dubois, Dakar, RFI.
Dakar où il est 3h52. L'or noir au cœur de la chronique des matières premières ce matin. Malgré les crises qui s'enchaînent, les prix du pétrole oscillent toujours entre 70 et 75 dollars le baril. Mais alors comment expliquer ce phénomène ? Eh bien, il faut se tourner vers la Chine, notamment la croissance de sa demande a été largement revue à la baisse cette année. Mais c'est également une production en hausse chez les pays non membres de l'OPEP+, qui peut expliquer cette tendance. Plus de détails avec Marie-Pierre Olfan.
Moins de demandes d'un côté, plus d'offres de l'autre, l'équation finale donnera bien un marché en surabondance en 2025. L'AIE a évalué ce surplus à près d'1 million de barils par jour. Le chiffre pourrait même augmenter à 1,4 million si l'OPEP+, qui garde d'importants volumes sous terre depuis des mois, réintroduit progressivement des barils sur le marché à partir du mois d'avril. Cet excédent de pétrole est d'abord lié à l'offre. Certains pays membres de l'OPEP+, ne respectent pas en effet leur engagement et persistent à produire plus qu'ils ne devraient. Et puis il y a surtout les pays qui ne sont pas membres de l'organisation, qui eux profitent pour ouvrir généreusement le robinet et prendre des parts de marché. En tête de ces producteurs, on trouve les États-Unis, mais aussi le Brésil, le Canada, le Guyana et l'Argentine. Ce sont ces pays-là qui contribueront le plus à augmenter l'offre sur le marché l'année prochaine. Le problème, c'est que tout ce pétrole brut ne trouve pas preneur. L'essoufflement de la croissance économique mondiale pèse sur la demande. Le premier acheteur, la Chine, a vu sa consommation croître beaucoup moins que prévu. Le scénario est le même dans d'autres pays émergents tels que le Nigeria, le Pakistan, l'Indonésie, l'Afrique du Sud et l'Argentine. En 2025, ce n'est d'ailleurs pas la consommation de carburant dans les transports qui sera le moteur de la hausse des besoins, mais l'industrie pétrochimique alimentée par la demande en plastique. En attendant, la surabondance annoncée pour l'année prochaine se reflète dans les prix. Les marchés restent calmes malgré les vents contraires qui soufflent sur les cours depuis plusieurs semaines et même plusieurs mois.
La chronique des matières premières du jour, Marie-Pierre Olfan. C'est bientôt la fin de cette première édition d'Afrique Matin. Le retour de l'actualité internationale dans quelques instants. Avant cela, direction les territoires français de l'océan Indien pour le journal des Outre-mer. Mayotte, pour commencer, où pour la première fois depuis 2019, la menace d'un phénomène météorologique direct est bien présente. C'est une édition présentée par Benoît Ferrand. Bonjour Benoît.
Bonjour.
Chido, désormais passé dans la catégorie de cyclone tropical intense, se rapproche en effet du nord de Madagascar et donc de l'archipel des Comores et donc enfin et hélas des côtes du département 101. Écoutez le point fait hier jeudi à 12h locale par Andri Rakotondravoul.
Ce matin à 9h, Chido était à 1050 km de Mayotte, exactement à l'est-nord-est de notre département. Chido poursuit sa trajectoire ouest-sud-ouest à 20 km par heure. Il est devenu depuis ce matin, comme vous l'avez précisé, cyclone tropical intense et génère des vents entre 160 et 200 km/h. Demain, selon les prévisions, le cyclone ne devrait pas toucher la partie nord de Madagascar. Et après avoir passé le cap d'Ambre, le cyclone devrait bifurquer vers l'archipel des Comores et plus principalement vers Mayotte. Chido devrait passer au plus près de Mayotte, à 60 km de l'île, selon les prévisions les plus optimistes. Mais il y a aussi une prévision qui laisse entendre que Chido va traverser notre île. Les dégradations du temps sont attendues ce samedi en milieu de journée avec les phénomènes associés donc au système, c'est-à-dire vent très fort, vent très violent, forte pluie et marée de tempête. Il faut donc rester vigilant et suivre l'évolution du système, écouter les informations que nous allons continuer à donner à tous les Mahorais.
Andri Rakotondravoul de la première Mayotte, 40 sapeurs-pompiers venus de l'île de la Réunion et 70 militaires de la sécurité civile venus de Brignoles dans le Var sont attendus ce vendredi à Mayotte. Direction maintenant l'île de la Réunion avec un tout autre sujet. C'était jour de vote hier à l'Université de la Réunion. Ils étaient 1500 membres du personnel appelés à renouveler leurs représentants et donc à voter sur les différents campus. Un vote qui ouvre en fait la succession de l'actuel président de l'université, suspendu depuis plus d'un an, Olivier de la Richaudie.
Le 6 octobre 2023, un coup de tonnerre frappe l'université de La Réunion. Visé par des accusations de harcèlement moral, son président, Frédéric Miranville, est suspendu par la ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche. Aujourd'hui, deux candidats se disputent sa succession. D'un côté, Richard Lorion, maître de conférences en génie informatique et directeur de l'IUT de Saint-Pierre pendant 10 ans. L'autre liste est menée par Jean-François Ouarot, professeur des universités en sciences économiques et directeur adjoint du Centre d'économie et de management de l'océan Indien. Point commun dans leur programme, les deux équipes s'inquiètent de la précarité étudiante et prônent une nouvelle méthode de gestion apaisée pour sortir de la guerre des clans, un impératif même au regard du récent rapport de la Cour des comptes. L'Université de la Réunion a été épinglée pour sa gouvernance défaillante, une situation financière précaire et une offre de formation dépourvue de véritable pilotage.
En bref, face à la hausse des coûts engendrée par le conflit en Ukraine et notamment l'inflation du prix des intrants, l'État accorde plus d'1 million d'euros d'aide exceptionnelle à 600 agriculteurs réunionnais, 601 dossiers pour être précis, qui ont été instruits et validés pour un montant total de 1,17 million d'euros. Fin de cette édition. Bonne journée, bon week-end.
Bonne journée Benoît et bon week-end à vous. 4h59 ici à Paris, 1 heure de moins en temps universel. Je remercie Édouard Dupénoit à la rédaction, en chef Adrien Toureau à la réalisation de cette première édition d'Afrique Matin. La prochaine, ce sera avec Sébastien Duhamel à partir de 4h30, temps universel. En attendant, dans une minute, le retour de l'actualité internationale.
Un jour au village, Penaï Traoré.
En République démocratique du Congo, 8 ménages sur 10 utilisent le manioc dans l'alimentation quotidienne. Mais ce tubercule est attaqué depuis plusieurs années par des maladies ravageuses, dont la maladie des nécroses racinaires. Quelles conséquences sur la culture du manioc en RDC?
Un jour au village, avec Penaï Traoré, tous les samedis à 13h10 TU sur RFI.
monde.
Bonne pulsation du monde avec Hortense Vol.
Au programme cette semaine, une princesse du marais, originaire de Floride, États-Unis, une diva ouzbek version ex-URSS, un hippocampe fou, français celui-là, et un malien de Calabre en live sur une scène flottante en Allemagne. Êtes-vous prêts seulement ?
Bonne pulsation du monde avec Hortense Vol. Tous les dimanches à 14h10 TU sur RFI.
BPM.